Je vous invite à entendre maintenant deux lectures dans l'Ancien, puis dans le Nouveau Testament, tout d'abord dans le livre de Jérémie, puis dans l'Évangile selon Marc.
Donc, Jérémie 23, versets 1 à 6. Malheur des pasteurs qui laissent dépérir à l'abandon le troupeau de mon pâturage, oracle du Seigneur. Eh bien, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, au sujet des pasteurs qui font paître mon peuple. C'est vous qui avez laissé à l'abandon mon troupeau, l'avez dispersé. Vous ne vous en êtes pas occupé. Or moi, je vais m'occuper de vous en punissant vos agissements pervers, oracle du Seigneur. Moi, je rassemble ceux qui restent de mon troupeau, de tous les pays où je les ai dispersés, et je les ramène dans leurs enclos où ils proliféreront abondamment. J'établirai sur eux des pasteurs qui les feront paître. Ils n'auront plus peur, ils ne seront plus accablés. Plus aucun d'eux ne manquera à l'appel, oracle du Seigneur. Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un rejeton légitime. Un roi règne avec compétence, il défend le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda est sauvé. Israël habite en sécurité. Voici le nom dont on le nomme, le Seigneur, c'est lui notre justice. Marc 6, versets 30 à 44. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup de monde qui venait et repartait. Et eux n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent en barque vers un lieu désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent à cet endroit et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Puis, comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui dire « L'endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les qu'ils aillent dans les hameaux et dans les villages des environs à acheter de quoi manger. » Mais il leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent « Nous, faut-il aller acheter pour 200 pièces d'argent de pain et leur donner à manger ?» Il leur dit « Combien avez-vous de pain ? » ?»« Allez voir. » Ayant vérifié, ils disent « 5 et 2 poissons. » Et il leur commanda d'installer tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Ils s'étendirent par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant son regard vers le ciel, il prononça la bénédiction, rompit les pains et il les donnait aux disciples pour qu'ils les offrent aux gens. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux qui remplissaient 12 paniers et aussi ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes.
Dans un ouvrage qu'il avait appelé « Point de vue explicatif de mon œuvre », le philosophe danois Kierkegaard avait écrit « La foule, c'est le mensonge. Et c'est un mensonge que de faire du nombre le tribunal de la vérité. » Pour un solitaire comme lui, qui passait beaucoup de temps à regarder par la fenêtre les habitants de Copenhague marcher dans la rue et qui, en les regardant, se demandait si au beau milieu de ces milliers de chrétiens, il s'en trouvait au moins un d'authentique, c'était sa question, son angoisse, le passage du singulier au pluriel n'avait rien d'évident. La foule, c'est le nombre, c'est la masse, calme par moments, affairée à d'autres moments, parfois tout à fait excitée et braillarde, comme un animal imprévisible, ingérable, qui ne laisse pas souvent d'autre choix que de chercher les moyens de de la renvoyer dans l'enclos, dans l'étable ou à la niche. Avec cette vision assez tragique, pas très positive du collectif humain, le solitaire de Copenhague entendait tirer les conséquences d'un christianisme fondateur de la dignité de l'individu. C'était important pour lui que Dieu, s'il s'adressait à tous, bien sûr, et promettait le royaume, le salut, s'adresse presque en le tutoyant à chacun d'entre nous. C'était un deuxième aspect, au moins aussi important que l'autre. C'est l'individu par excellence qui doit primer sa capacité à sortir par le haut, dignement, d'alternatives radicales. C'est tout cela qui lui donne sa valeur spirituelle, au point qu'on peut presque l'affubler d'une majuscule. D'ailleurs, dans certaines traductions, l'individu, dans ces textes, se trouve souvent avec un I majuscule. On comprend alors, vu l'influence qu'a eue ce monsieur, sans le savoir d'ailleurs de son vivant, sur notre modernité, toute la méfiance qu'on peut entretenir ici, dans notre partie du monde, vis-à-vis de tout ce qui peut faire disparaître cet individu, le faire retourner à un magma dont il est sorti. C'est une peur, une angoisse que nous avons, le faire retourner dans quelque chose d'indifférencié, comme un retour au chaos originel que nous craignons avec le retour à la foule, la création défaite, puisque la création est un ordonnancement du chaos. L'homme démembré, réduit en bouillie, en purée, pour repartir à quelque chose de liquide, retourner à l'état d'argile dont on l'a tiré, à l'état de matériaux bruts. C'est cela que nous craignons en suivant finalement cette injonction d'être soi, d'être un, d'être quelqu'un, un. C'est peut-être aussi pour cela que les phénomènes parfois effrayants qui impliquent des foules innombrables nous font venir à l'esprit cette question angoissée, mais que nous est-il arrivé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Si nous nous arrachons à cette définition de la foule, nous retombons peut-être dans celle de Marc qui est bien différente, parce qu'il y a aussi une foule dans ce texte, mais elle ne joue pas le même rôle, elle ne se comporte pas de la même manière. Chez Marc, pas de vocifération, pas d'envie d'en découdre, pas de violence, pas d'animosité, quelle qu'elle soit. Il n'y a qu'une longue marche à pied, le ventre vide, pour dire ces différentes formes de faim, parce que tout le monde a faim, mais tout le monde n'a pas la même, sans doute, dans cette foule, et qui transforme chacun en un demandeur, quelqu'un qui est en attente de quelque chose. Et tous ces gens courent ensemble, mais chacun aussi de son côté, au sein de cette foule, en direction d'un porteur de pain et de parole qui va leur donner et l'une et l'autre. Il y a de la détermination, une vraie fin de rencontre, une envie de conversation dans la foule de Marc, un besoin de ne plus errer sans but. Et d'ailleurs, la foule qui arrive n'est plus la même en repartant. Elle n'a pas de berger, elle ne sait pas où elle va, elle s'éparpille, elle se fatigue, elle s'épuise parce qu'elle a faim. Et après avoir été assise, rassasiée, par paquets de 100 ou de 50, donc déjà un peu ordonnée, ces gens vont se relever et partir enfin dans un endroit qu'ils visent, qu'ils cherchent parce qu'ils en ont les forces. Il leur fallait cette pause. Et puis les disciples ne sont pas les mêmes non plus, ils étaient uniquement disciples. Ils deviendront un peu, déjà, apôtres après ce récit. Les disciples, d'ailleurs, commencent par esquiver un peu. Ils commencent par une partie de cache-cache. Cette foule opiniâtre, au début du récit, ils la fuient. Ils n'ont pas très envie d'être rejoints par elle. Ce n'est pas pour fuir un monstre informe dont ils ont peur, mais simplement, eux aussi, avant les autres, ont besoin aussi de repos. Après, ils pourront donner ce qu'ils ont à donner, et ils ne savent pas encore quoi, ni en quelle quantité. De toute manière, on n'échappe pas à cette foule de demandeurs. On peut difficilement échapper à une foule violente, mais celle-ci, celle qui vous poursuit de ces « j'ai besoin de ceci » ou « besoin de cela », on ne s'en débarrasse jamais. Et c'est tant mieux. Elle n'est pas le chaos hostile qui nous fait craindre pour notre vie. Elle est seulement la masse de ceux qui sont venus pour ne plus être perdus et ne plus avoir faim. Voilà ce qu'ils sont. Et les disciples ne pourront fuir ni cette foule, ni leur responsabilité. Passer de disciples à apôtres n'est pas une mince affaire. Ils sont maintenant liés ensemble avec Jésus comme des ouvriers, voués à une même tâche, une même mission. Nulle part ailleurs chez Marc, pourtant, il ne sera fait mention de cette promotion, parce que c'en est bien une, passer de disciple à apôtre. Ça se fera bien sûr graduellement, ça n'est pas comme passer directement du statut d'étudiant à celui de, je sais pas, de cadre dans une entreprise parce qu'on a montré son beau diplôme obtenu à l'issue de sa formation initiale. On ne franchit pas comme ça, on n'atteint pas le statut de cadre tout de suite. On est d'abord disciple, formé, petit à petit, en stage, et puis petit à petit, on se voit confier des responsabilités qu'on n'attendait pas et qui nous font mûrir. Et un jour, quelqu'un, au moment où vous ne vous y attendez pas, vous dit « tu es prêt ». Ce n'est pas une mince affaire de devenir apôtre, et il faut aux disciples passer par plusieurs phases pour le devenir. Un apôtre, c'est un envoyé. C'est quelqu'un d'actif, mais on a l'impression que ceux-ci, nos disciples, en passe de devenir apôtres, ont du mal à se mettre à l'ouvrage comme si la peur d'un chaos englobant et fatal était encore la plus forte. Ils n'ont peut-être pas compris encore à qui ils ont affaire. Ils se plaignent de trouver l'endroit désert, préfèrent qu'on renvoie tout ce beau monde, et une fois qu'on les a convaincus que ça allait se passer, de toute façon, content ou pas content, ils fouillent dans leur poche et trouvent que ce qu'ils ont est insuffisant. Leur réticence ne disparaîtra que lorsqu'ils entendront Jésus leur expliquer d'une manière particulière « Arrêtez de ne compter que sur moi. Voyez ce que vous pouvez faire, vous. » Et un peu plus tard, ils entrevoient ce qu'il y a à faire, même s'ils n'en ont pas les moyens. 200 pièces d'argent, ça ne se trouve pas comme ça, et pourtant, ça n'est pas suffisant. Au moment où ils font s'installer cette foule par terre, s'asseoir, la disposition choisie rappelle celle du peuple d'Israël dans sa période nomade au désert. Ça n'est pas innocent, le récit a été en grande partie fait comme ça. Cette fois, ce n'est plus une foule chaotique, désordonnée, effrayée ou effrayante. C'est déjà un peu un peuple mis en tribu, où chacun aura son territoire et sa tâche. Il commence déjà à ressembler à cela. C'est déjà un peuple en ordre de marche, et les disciples, qui sont eux encore un peu désorientés, disparaîtront petit à petit pour faire place à des apôtres affairés, c'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils ont à faire, malgré le peu de moyens. Quand Marc nous dit que Jésus a pitié, parce qu'il trouve une certaine forme de chaos dans cette foule affamée et aussi chez des disciples en passe de devenir apôtres, parce que chez eux aussi il y a besoin de mettre un peu d'ordre, c'est qu'il y a tout de même une certaine parenté entre un peuple qui cherche sa vocation et cette création à l'envers, cette décréation, la création qui se défait, que j'évoquais tout à l'heure. Il faut du temps pour tirer une forme d'ordre du chaos, comme il faut du temps pour mettre un peuple perdu en marche vers une destination. C'est peut-être la même spontanéité créatrice qui est à l'œuvre dans l'un comme dans l'autre. Jésus joue ici le rôle de l'émetteur, la parole transmise représente le message et la foule le récepteur. Et quand le processus est terminé, cette foule perdue peut enfin devenir un peuple et les disciples peuvent enfin devenir des apôtres jouant pleinement leur rôle de transmetteur. Une fois installée, mise en ordre de marche, l'ex-foule, ce peuple qui était anciennement une foule dispersée, participe au repas qui est sans doute la meilleure image de la communion nouvelle. Rassemblé pour être rassasié par une parole nourriture, on ramasse finalement, à la fin, autant de paniers qu'il y avait de tribus dans ce peuple ancien qu'il y a maintenant d'apôtres pour guider ce peuple nouveau, 12. Cette scène est presque trop parfaite. On sent un peu la mise en scène ou la mise en récit. Elle a bien sûr été voulue comme ça pour mettre en scène ce qui doit être une église, parce que c'est de nous que ce texte nous parle, extirpé de son chaos, échantillon de quelque chose de trop grand, de son absence de direction, de vocation particulière, de volonté ou de cap, une masse ni plus ni moins chaotique que le reste, c'est ce que nous sommes, apprend à se nourrir et à écouter pour se mettre à parler et nourrir les autres lorsque le moment est venu. Le pain et les paroles dont nous avons besoin, c'est le minimum nécessaire à la vie, reçu dans un premier temps, puis partagé dans un second temps. Ce qui est certain, c'est que la quantité ne sera jamais un problème. C'est une inquiétude passagère. Nous n'avons pas assez. Et ça ne pose pas problème, finalement. On peut penser d'ailleurs que les 12 paniers qui restent représentent ce que chacune des 12 tribus de ce peuple a mis de côté, patiemment, économisé pour de futures distributions. Pourquoi pas ? C'est bien à une transformation qu'on nous invite ici, et celui qui nous extrait du monde pour faire de nous une église, qui nous extrait de la société, de la civilisation dans laquelle nous baignons, comme dans un milieu naturel, celui-ci nous attribue une vocation et une mission. Le matériau brut à travailler, c'est le chaos originel qui est le nôtre, toujours puissant, toujours capable de nous ramener à de la bouillie, à de l'argile indifférenciée mêlée d'eau, quelque chose d'amorphe, sans forme. La foule hostile existe et c'est celle dont Goethe parle avec des mots très simples. « Je n'ai rien contre la foule, disait-il, je n'ai rien contre elle personnellement, mais si un jour elle a des problèmes oppressants, pour chasser le diable, la foule tétanisée choisira des leaders qui vont la tyranniser. » C'est ce que Goethe disait dans « L'exénie de la vieillesse ». Et c'est bien un danger qui doit mobiliser toujours notre vigilance. Le cas le plus fréquent, c'est celui d'une foule qui n'a pas de berger, ni volonté, ni cap à suivre, ni vocation. Peut-être que l'étape suivante est justement celle où elle exprime ses fins, ses besoins et ses manques, et où elle rencontre celui qui lui dit calmement de s'asseoir, plutôt que de partir à l'assaut de je ne sais quoi, s'asseoir calmement, recevoir la parole et le pain qui étaient nécessaires et repartir vers le monde qui l'attend. C'est de ce magma précisément qu'il faut chercher à s'extraire pour devenir une église et au-delà un pays, un peuple, une humanité prête au voyage sans avoir peur, sans crainte, sans désir d'émeute. La foule, c'est le mensonge, écrivait le Danois, un Danois angoissé, inquiet. C'est un mensonge que de faire du nombre le tribunal de la vérité. Il avait sans doute raison de craindre cette forme particulière de chaos. Elle fait partie de nos comportements destructeurs fréquents, individuels, mais aussi quand nous nous mettons ensemble pour dire à quel point nous sommes en colère. Mais le risque évoqué par Marc ici est différent. Il montre une foule comparable non pas à une matière inflammable ou explosive, mais à un matériau qu'il faut travailler pour lui donner une forme. C'est déjà l'étape qui suit, et c'est peut-être celle-là qu'il nous faut commencer par rejoindre pour dire de quoi nous avons faim, comme pour mieux imiter les gestes créateurs d'un Dieu présent dans tous les commencements ou dans tous les recommencements. Chaque fois que nous entreprenons courageusement ce travail, eh bien, nous retrouvons notre vocation en tant qu'Église, celle que les disciples comprennent alors qu'ils ne savaient pas encore à quoi ils devaient servir, et de ce peuple éparpillé qu'on remet en ordre de marche, non pas pour le lancer à l'assaut de quelque chose, mais pour le remettre debout et atteindre le pays où il sera enfin chez lui. Et puis, parce qu'il y a toujours un reste, il y a toujours une suite à une parabole ou à une histoire, il y a ces fameux 12 paniers. Je suis certain que dans les 12 paniers, il y a plus que les 200 pièces que les disciples avaient réussi à recenser au fond de leur poche en se cotisant et en mettant tout en commun dans une caisse. Évidemment, je n'ai pas compté, bon, je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas vous l'assurer. Mais dans ces 200 pièces de la pénurie et de la peur de manquer, ces 200 pièces disparaissent et il reste les 12 paniers de l'abondance à distribuer parce que nous avons suffisamment mangé comme cela. Ça dit toute la mission d'une église qui, malgré ses petits moyens, a toujours assez à donner à d'autres. Amen.